Bonsoir à tous. Troisième étape de ce parcours des textes baudelairiens en compagnie du philosophe Jacques Dariula, professeur d'esthétique à l'Université de Paris 4. De même que pour Platon, le beau est le marchepied du vrai, on pourrait dire de la drogue qu'elle est pour Baudelaire le monde charge de l'imagination. L'imagination qu'il appelle la reine des facultés. Alors si la reine des facultés est le septième ciel du maître et ce qui reste à l'homme perdu dans le quotidien, dans le spleen, dans la ville, les mondes qu'elle déploie, de fait, ne sont pas un ailleurs mais un ici. Baudelaire parle d'un monde nouveau, un autre monde, un monde étrange où tout le monde est étranger. Ce monde, c'est le nôtre, purgé par la drogue de tous les voiles dont la banalité le recouvre. Baudelaire se sert de la drogue pour accéder au monde inutile et c'est d'elle que nous parlerons donc aujourd'hui autour des paradis artificiels, son discours de la méthode. Bonjour Jacques Dariula.
Bonjour.
Bonjour. Alors j'ai dit des paradis artificiels qu'il était le discours de la méthode poétique de Baudelaire. C'est à vous que j'emprunte cette expression. En quel sens l'entendez-vous ?
Alors, je crois en effet que c'est un texte capital chez Baudelaire, le traité du haschich et du vin, 1851, qui précède d'un an une longue étude sur Edgar Poe. Je crois que c'est un texte dans lequel il découvre les fondements d'une poétique radicalement nouvelle, qui n'est pas une politique poétique de l'embellissement facile de la réalité, mais de la réinvention d'un réel que recouvrent les usages quotidiens de la banalité ordinaire. Il me semble qu'il faut lire ce texte beaucoup plus que comme la simple expérience, le récit d'une expérience vécue, comme une véritable initiation à une poésie nouvelle. Bien entendu, nous sommes toujours dans le problème proprement baudelairien, comment réinventer la poésie dans un monde sur lequel pèse le spleen, comment retrouver la perfection de la forme dans un monde voué à l'informe et à l'errance. Et alors, nous avons dit, je crois, dans une émission précédente, loin de repousser l'ennui, Baudelaire cherche plutôt à aller jusqu'au fond de ce gouffre pour trouver du nouveau. Donc de pousser l'ennui jusqu'à son extrême, nous avions dit que l'ennui allégorise le monde et finit par le sujet disparaissant, étant absorbé dans son propre néant, voit surgir face à lui des objets doués d'une soudaine autonomie. Il me semble que le haschich, rappelons-nous aussi d'ailleurs que à la porte d'entrée des fleurs du mal, au portail d'entrée des fleurs du mal, c'est l'ennui qui veille. C'est l'ennui, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Donc cette longue pipe des soldats en garnison, fumée et l'image même de l'ennui. Le temps me brûle, je prends en quelque sorte ma revanche en fumant, en brûlant lentement le tabac au rythme du temps. Je crois que dans le hookah de l'ennui qui vautré, je dirais, à l'entrée du royaume des fleurs du mal, eh bien, je crois qu'il n'y a pas du tabac, mais il y a bien du haschich. Et c'est là, véritablement, une expérience quasi initiatique pour la redécouverte d'un monde que nous dissimule la banalité de la vie quotidienne.
Qu'éprouve-t-on, demande Baudelaire, dans les paradis artificiels ? Que voit-on ? Des choses merveilleuses, n'est-ce pas ? Des spectacles extraordinaires ? Est-ce bien beau et bien terrible et bien dangereux ? Telles sont les questions ordinaires, poursuit-il, qu'adressent avec une curiosité mêlée de crainte les ignorants aux adeptes. On dirait une enfantine impatience de savoir, comme celle des gens qui n'ont jamais quitté le coin de leur feu, quand ils se trouvent en face d'un homme qui revient de pays lointains et inconnus. Ils se figurent l'ivresse du haschich comme un pays prodigieux, un vaste théâtre de prestidigitation et d'escamotage, où tout est miraculeux et imprévu. C'est là un préjugé, une méprise complète. Le haschich ne vaut pas tellement par les hallucinations d'un ailleurs que par la façon qu'il a de nous faire rêver de l'ici et donc de nous le montrer tel qu'il est. Nietzsche dit, dans sa correspondance un jour, il dit « Le secret du génie est de ne tolérer autour de lui l'existence d'aucune fiction. » Est-ce qu'on peut appliquer cette phrase au paradis artificiel de Baudelaire? Le haschich comme remède à la fiction, justement.
Vous avez raison, la vision du haschich n'est pas une hallucination, c'est plutôt un surréal qui apparaît et que, encore une fois, qui est refoulé par le langage ordinaire. Et là, c'est ce qui se produit. Et il le dit d'ailleurs, l'esprit est absorbé, il est noyé dans le réel. Baudelaire, par exemple, met en garde le haschichine, l'assassin, le fumeur de haschich.
Le mot d'assassin vient de haschichin. Oui, bien
oui
sûr.
Et le club des haschichines était lié à une légende arabe.
Le vieux de la montagne.
Le vieux de la montagne, rapporté par Marco Polo, qui raconte que dans cet état d'ivresse, Nietzsche lui-même d'ailleurs y fait allusion, Rimbaud aussi dans le temps des assassins, dans cet état d'ivresse, l'homme était transporté au-dessus de lui-même, devenait une sorte de surhomme et affrontait la mort sans aucune peur, n'avait plus besoin d'un dieu pour triompher de la mort. Bien. Le danger du haschich, dit Baudelaire, c'est qu'il nous noie dans le réel. Et par exemple, c'est une espèce d'ondine qui nous attire dans l'eau et il y a un certain danger. Je n'affirmerai pas que la contemplation d'un gouffre limpide fut tout à fait sans danger pour un esprit amoureux de l'espace et du cristal et que la vieille fable de l'ondine ne put devenir pour l'enthousiaste une tragique réalité. Je crois que dans l'expérience du haschich, le monde devient une eau dans laquelle plonge et se noie la conscience. Le sujet n'est plus là pour dire le monde. Et paradoxalement, il faut qu'il y ait cette expérience de perte de la parole, d'aphasie, pour que la poésie puisse renaître, parce que cet engloutissement du sujet, cette annulation du sujet dans la présence du monde est en même temps la révélation d'une indépendance ou d'une autonomie des choses, de l'acte de présence des choses, et qui est un monde alors extraordinaire, puisque ici, les objets ne sont plus des objets utilitaires, une chaise pour s'asseoir, une table pour écrire, ils deviennent des formes pures qui prennent leur indépendance et qui se cristallisent dans un espace formidablement distendu aux yeux d'un sujet qui, paradoxalement, n'est plus là pour les voir, puisque le sujet, comme dans un rêve, enfin, il y a plus personne dans la salle de cinéma, le sujet n'est plus conscient, et pourtant, il y a une représentation qui vaut par elle-même, qui est indépendante, et non pas une représentation qui tombe sous la suggestion des catégories du sujet.
Donc le haschich, c'est l'occasion d'un éveil de la conscience chez Baudelaire. Il dit ceci, hein, toujours dans les paradis artificiels. Il est des jours où l'homme s'éveille avec un génie jeune et vigoureux. Ses paupières à peine déchargées du sommeil qui les scellait, le monde extérieur s'offre à lui avec un relief puissant, une netteté de contours, une richesse de couleurs admirables. Le monde moral ouvre ses vastes perspectives, pleines de clarté nouvelle. Ça donne envie de fumer. Jacques Dariulin.
Ça donne envie de fumer, si l'on veut. Je pense que le plus grand haschich, c'est la poésie, et que la plus haute ivresse, c'est celle de la lucidité. Mais le haschich montre une voie, effectivement. C'est une expérience initiatique fondamentale pour Baudelaire. C'est celle par laquelle, finalement, peut-être un monde saturé de littérature abandonne tous les alibis littéraires et intellectuels que nous posons entre nous et le réel pour oser voir la terrifiante présence du réel non domestiquée par nos catégories.
Il n'y a pas que le haschich qui fait ça, il y a aussi le vin. Je voudrais qu'on entende maintenant un poème des Fleurs du Mal intitulé le Poison, dans lequel Baudelaire parle du vin puis de l'opium, et je voudrais qu'on l'entende, et puis juste après une chanson des Doors fameuse qui s'appelle Alabama Song.
Le vin sait revêtir le plus sordide bouge d'un luxe miraculeux et fait surgir plus d'un portique fabuleux dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux. L'opium agrandit ce qui n'a pas de borne, allonge l'illimité, approfondit le temps, creuse la volupté, et de plaisirs noirs et mornes remplit l'âme au-delà de sa capacité. Tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux verts, lac où mon âme tremble et se voit à l'envers. Mes songes viennent en foule pour se désaltérer à ces gouffres amers. Tout cela ne vaut pas le terrible prodige de ta salive qui mord, qui plonge dans l'oubli mon âme sans remords, et charriant le vertige, la roule défaillante aux rives de la mort.
show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar.
Et oui, les Doors donc, Alabama Song évidemment, une chanson qui raconte l'histoire d'un homme qui cherche le prochain bar à whisky. Si on lui montre pas, il dira qu'il doit mourir. C'est dire justement que la drogue, le désir de la drogue à la fois magnifie le sentiment de la mort, autant qu'elle peut nous en distraire. On retrouve cette ambivalence, chère à Baudelaire, d'un idéal dont on se sert pour échapper au spleen et qui en même temps gît au fond du spleen, à la façon dont les fleurs, on les fait pousser sur le terreau du mal dans la poétique baudelairienne. Dans le texte, le poison, Jacques Dariula, Baudelaire dit bien, hein, ce que vous avez dit juste avant, que le vin sait revêtir le plus sordide bouge d'un luxe miraculeux. En d'autres termes, la beauté n'est plus la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose hideuse.
Tout le travail du poète consistera à reprendre la parole qui lui a été volée par l'avènement de la présence des choses. Et alors, oui, belle représentation de la chose. Je crois qu'on pourrait dire ici quelque chose sur le maquillage, sur cet éloge du maquillage dans Le peintre de la vie moderne, qui est un texte si connu, et qu'on interprète souvent, je pense, mal. L'interprétation qu'on lit souvent, c'est que le monde du moderne est dépourvu d'idéal et si déprimant qu'il faudrait le colorer pour qu'il puisse encore nous donner le goût de vivre. L'art serait alors un maquillage qui donnerait une apparence de beauté à ce dont la vérité est horreur et néant. Si c'était le sens de l'éloge du maquillage, on pourrait dire que... c'est une bien faible justification de la poésie que de dire quel est le maquillage du réel et qu'elle renonce à la vérité. Je crois que jamais un grand poète, pas plus qu'un grand philosophe, ne peut renoncer à la vérité. On ne choisit pas l'illusion contre la vérité, on choisit une vérité plus forte contre une vérité plus faible.
Oui, on peut aussi considérer que c'est une pauvre vérité que la vérité qui prétend être absolue ou parfaitement transparente. Et qu'il y a, il y a plus de vérité justement dans un monde qui admet l'illusion, l'erreur, qu'un univers qui ferait le vide et qui regarderait le monde avec des yeux translucides, non, Jacques Dariula ?
C'est une question qui est au cœur de l'interprétation de Nietzsche et qui nous conduirait fort loin. Je crois...
Qui nous mettrait en situation de désaccord l'un et l'autre.
Peut-être.
Probablement.
Je m'explique. En tout cas, n'êtes-vous pas d'accord avec moi que dire que la poésie est le maquillage de la morne solitude, c'est dire finalement qu'elle n'est pas grand-chose. Car enfin, la vérité a quand même un sens. Si la vérité de l'existence est horreur... ce qui serait juste, c'est de quitter cette existence et non pas de la maquiller pour faire semblant de vivre. Et la poésie ne serait qu'un semblant si elle n'était qu'un maquillage.
Est-ce que ça n'est pas le risque qu'encourt justement la poésie et sa quête de la beauté ? Est-ce que ça n'est pas justement le risque d'être une espèce d'entretenir avec le réel blafard un rapport exclusivement cosmétique ? Comment est-ce qu'on échappe à ça ? Qu'est-ce qui fait que la poésie magnifie le réel véritablement, en explore les bas-fonds plutôt qu'elle ne les recouvre d'un voile de soie ?
C'est justement, me semble-t-il, la leçon du discours,
l'éloge
de la méthode poétique du hashish. C'est-à-dire qu'il se pourrait que le monde du spleen soit lui-même une illusion due à la dépression de notre propre désir, à notre incapacité à nous donner un idéal ou à réinventer le monde. Il me semble que le monde découvert, je ne peux pas... On peut quand même employer le mot d'hallucination, mais au sens où l'hallucination est l'hyper-réel et non pas la fiction. Que le monde découvert par l'hallucination du hashish, et j'emploie le mot hallucination parce que l'hallucination est une représentation qui suppose un sujet non conscient de lui-même. Ce qui est, c'est très étonnant, cette idée que Freud reprendra d'une représentation inconsciente. Comment peut-il avoir une représentation quand il n'y a personne dans la salle pour la regarder ? Après tout, c'est ce qui se passe dans nos rêves. Et dans le hashish, la représentation devient inconsciente puisque le sujet a été noyé, absorbé dans le réel. Et ce qui se découvre, ce n'est pas du tout une fiction, un rêve, c'est un autre réel, un véritable réel qui, je crois, est beaucoup plus réel que le monde de l'utilité de la société bourgeoise du Second Empire, où la vie et où les phases de la vie sont prédites, sont mises en case, et qui finalement est une vie de semblant, une vie qui se détourne de ce qu'il y a de réel. Si le spleen est la vérité de l'existence, alors la vision du spleen est la vérité de la vie, et la vision du spleen trouve sa forme extrême, hyperbolique, dans l'hallucination du haschich, ou dans l'hallucination de la drogue, c'est-à-dire de l'indépendance de la chose, de cette souveraineté de la chose indépendante qui prend sa revanche sur le sujet qui voulait la dominer.
Quand je suis grise, je dis des bêtises, j'amuse les gigolos. Comme les copines, je me morfine, ça me rend tout rigolo. Je prends de la coco, ça trouble mon cerveau. L'esprit s'envole et mon chagrin s'enfuit tout loin. Je deviens folle.
La coco de Fréhel, pour illustrer ce que vous dites, Jacques Dariula, dans son paradis artificiel, dans ses paradis artificiels, Baudelaire dit notamment que les gens du monde et les ignorants, curieux de connaître des jouissances exceptionnelles, sachent donc bien qu'ils ne trouveront dans le haschich rien de miraculeux, absolument rien que le naturel excessif. Est-ce que cette expression, là encore cet oxymore bizarre, de naturel excessif, est à comprendre comme justement l'hallucination due au stupéfiant qui n'est pas un ailleurs, l'hallucination d'un ailleurs, mais plutôt une hyperesthésie, une hypersensibilité qui fait que, comme le dit Baudelaire dans Correspondance, les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Le réel du haschich est un hyper-réel que nous refoulons dans la vie non poétique. Et justement, dans cette souveraineté que prend la chose, cette souveraineté quasi onirique, comme sur le théâtre d'un rêve, et qui nous rappelle le fait de la pure et simple présence du monde, la chose, la couleur des choses, le contour des choses se découpe, s'endiamante. Il y a toujours une sorte de minéralisation du monde poétique chez Baudelaire. La chose se découpe avec une précision extrême, les couleurs deviennent étincelantes, la chose devient une sorte d'absolu esthétique, d'absolu sensible. Et c'est, je crois, le sens du maquillage. Le véritable maquillage, ce n'est pas une fiction littéraire qui dissimulerait le réel, comme on le voyait dans les tableaux du Salon du Luxembourg ou du Salon officiel, qui était précisément un travesti littéraire du réel. Mais le véritable maquillage, c'est le réalisme poussé jusqu'au bout, ce qui peut d'ailleurs nous permettre de comprendre le lien de Baudelaire à Courbet. Le réalisme va vers le fantastique, en quelque sorte. Rien n'est plus fantastique que le simple fait que le monde autour de nous soit là.
En somme, l'insolite véritable, c'est le réel. Ça n'est pas ce qui tranche avec le cours naturel des choses, au contraire.
Absolument. L'insolite véritable, c'est qu'il y ait de l'être et non pas plutôt rien. Cette évidence ou ce fait renversant que le langage ordinaire, que le langage non poétique nous fait toujours oublier, parce qu'il rapporte toujours les objets aux fins ou aux besoins poursuivis par le sujet. Mais quand, par l'hallucination, le sujet s'anéantit lui-même pour laisser paraître la chose dans sa souveraineté et son indépendance, alors la chose devient, se maquille, ses couleurs deviennent très fortes, elle prend une présence surréelle ou hyper-réelle, et non seulement les choses apparaissent ainsi dans un bariolage ou un maquillage fantastique qui est le signe de l'intensité, de l'effet de présence, de l'acte de présence du réel, mais encore les choses dialoguent les unes avec les autres, c'est-à-dire que sous le regard inconscient, absent pour ainsi dire, mais c'est un grand art que de savoir se faire absent pour laisser advenir le monde, sous l'œil absent du témoin, eh bien, le monde devient une symphonie qui vaut par elle-même, et les choses se font écho les unes aux autres. L'arbre parle avec le nuage parle avec le lac, et s'établit cette mystérieuse correspondance, qui est une correspondance sensible au sein du monde sensible, qui n'est pas du tout une correspondance du sensible avec l'intelligible ou l'idéal, et qui est la symphonie de l'immanence d'un monde sans au-delà.
Il arrive, dit Baudelaire quelquefois, que la personnalité disparaît et que l'objectivité, qui est le propre des poètes panthéistes, se développe en vous si anormalement que la contemplation des objets extérieurs vous fait oublier votre propre existence et que vous confondez bientôt avec eux. Un peu plus loin, il dit « Votre œil se fixe sur un arbre harmonieux, courbé par le vent. Dans quelques secondes, ce qui ne serait dans le cerveau d'un poète qu'une comparaison fort naturelle deviendra dans le vôtre une réalité. Vous prêtez d'abord à l'arbre votre passion, votre désir ou votre mélancolie. Ses gémissements et ses oscillations deviennent les vôtres et bientôt, vous êtes l'arbre. » En d'autres termes, il ne s'agit pas de changer le monde, mais de mieux percevoir celui-ci au point de s'y confondre. Je voudrais avoir votre sentiment, Jacques Dariula, sur un texte de Clément Rosset qui fait un éloge de l'ivrognerie. Et il dit ceci, l'ivrognerie peut être invoquée comme une des voies d'accès possibles à l'expérience ontologique, au sentiment de l'être, car l'ivrogne voit qu'il y a la rose et qu'elle est sans pourquoi. Mais ce que perçoit l'ivrogne est avant tout la chose saisie dans sa singularité, c'est-à-dire une unicité qui contribue à la faire apparaître à la fois comme prodige et comme phénomène incompréhensible. Est-ce que finalement l'ivrognerie, le haschich ne sont à comprendre uniquement comme des façons d'exalter ce qui est, nous avons tout sous la main et nous avons des manières de le magnifier.
L'ivrognerie, disons l'ivresse, c'est peut-être pas la même chose, mais on définit plutôt l'ivresse comme une perte de la lucidité. En vous écoutant, en citant Clément Rosset, je pensais au roman de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan.
Oui, mais c'est dans le même texte qu'il en parle. Oui,
qui fait de l'effet d'ivresse, précisément, un état esthétique de prise de conscience de la singularité incompréhensible. Du sensible, du mystère de l'ici maintenant. Ce qui est une émotion, je crois, proprement moderne. Je crois que ça fait peut-être 2 siècles, 150 ans, que les hommes ont eu l'idée étrange de s'étonner que le monde soit là. Au fond, il y avait des alibis religieux pour justifier...
qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Oui.
Oui, chaque chose avait un sens, puisque le monde était un texte, Liber Naturae, le livre de la nature. Et il a fallu que ce sens s'absente pour que nous devenions sensibles au silence des montagnes, à la pédagogie de la solitude et à l'effroi de la présence. Et c'est là quelque chose de proprement moderne qu'on retrouve chez les philosophes modernes, par exemple chez Wittgenstein. Enfin, c'est un thème absolument fondamental. Et je crois que il ne s'agit pas ici d'un maquillage au sens d'une fiction ou d'une illusion. Il s'agit d'une expérience qui va beaucoup plus loin dans... le développement de la vérité dans la recherche et, philosophique de la vérité. Je ne crois pas qu'un philosophe puisse renoncer à la vérité. Ce n'est pas du tout en ce sens que je crois qu'il faut choisir l'art contre la vérité. Il faut choisir l'art contre la vérité au sens où la vérité de l'art est plus haute que la vérité de ce qu'on nommait la vérité à l'époque de Nietzsche, puisque je fais allusion à cette formule de Nietzsche, celle de la science. Mais il ne s'agit pas du tout de renoncer à la vérité pour choisir la fiction, ce qui serait un simple renoncement à penser, ce qui serait l'abandon de tout.
C'est en ce sens que Nietzsche lui-même se décrit comme un chercheur de vérité.
Absolument, absolument, oui. Mais c'est un contresens que... on entend souvent dans des copies d'étudiants.
Dans les copies d'étudiants, voilà
qui,
c'est ça.
Et qui n'entraînent pas nécessairement des réactions favorables de ceux qui les lisent. Bien. Vous avez lu ce texte magnifique où Baudelaire nous dit qu'il devient l'arbre, qui se continue d'ailleurs par l'oiseau. Hein.
Oui, il devient l'oiseau
qui plane au fond de l'azur représente. La représentation, effectivement, suppose l'acte de poser la présence à distance. Hein, c'est de poser la présence devant un sujet qui se réfléchit, c'est le sens de représenter. Donc, l'oiseau qui plane au fond de l'azur représente d'abord l'immortelle envie de planer au-dessus des choses humaines, mais déjà, vous êtes l'oiseau lui-même. Ainsi, le poète devient les choses. Et devenant les choses, il oublie le bruit des paroles futiles des hommes et il se met à l'écoute du dialogue secret des choses, du langage des fleurs et des choses muettes, comme il le dit dans Élévation. Et alors les parfums, les sons, les couleurs se répondent. Et ça sera la tâche du poète que de dire ce chant du monde autonome.
Eh bien, on va entendre Élévation, justement.
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux, celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins, celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes.
Le langage des fleurs et des choses muettes, c'est vous qui le disiez, Jacques Darulla, juste avant qu'on entende ce poème magnifiquement lu par Anne Brissier. Le langage des fleurs et des choses muettes, en somme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le haschich restitue aux choses le mutisme dissimulé par la frénésie? La frénésie quotidienne?
L'ardeur vers Plutus, oui. La frénésie moderne, oui. Surtout, l'expression est étonnante. Non. Dans ce poème, parce que le langage des fleurs, c'est un lieu commun. Par exemple, dans l'Ulysse dans la vallée, le langage des fleurs est une métaphore de la déclaration amoureuse déclinée de toutes ses façons. Les fleurs ici disent quelque chose. Or, justement, nous l'avons dit dans la première émission, si je me souviens bien, en pensant ce qu'il y avait de kantien dans l'esthétique baudelairienne, le propre de la beauté, c'est qu'elle ne signifie rien. C'est-à-dire que les fleurs hallucinées dans l'immanence des correspondances, ne disent plus, ce ne sont plus du tout des fleurs, ce n'est pas un discours en fleurs qui disent l'amour ou quoi que ce soit qu'on veuille. Ceci ne déprécie en rien l'extraordinaire Lys dans la vallée de Balzac. Mais je veux dire, c'est autre chose. Le langage des fleurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en disant que la rose est sans pourquoi. C'est justement, le langage des fleurs, c'est leur gratuité. À quoi ça sert une fleur? À rien. C'est là. Comme un espèce d'ornement incompréhensible qui nous est donné par la nature. Mais la nature, elle ne poursuit aucune fin. La supériorité de la beauté de la nature, le privilège de la beauté naturelle sur la beauté artificielle, comme le disait Corte, c'est précisément qu'elle ne veut rien dire. Si le rossignol chantera toujours mieux que la diva, pour reprendre aussi une notion kantienne, c'est parce qu'on peut toujours se demander ce que dit la diva. Et il faut mieux pas se poser cette question, alors que nous savons que le rossignol ne dit rien, qu'il n'exprime rien, qu'il est un pur phénomène sonore qui apparaît dans l'énigme de son être. Eh bien, le langage des fleurs, c'est qu'elles ne disent rien, sinon qu'elles sont le mystère d'un don gratuit, d'une beauté qui ne sert à rien et qui est incompréhensiblement donnée par la nature.
C'est dire, Jacques Darulla, que le paradis dont parle Baudelaire, encore une fois, n'est pas un au-delà. C'est de ce paradis-là que parle aussi Gainsbourg dans cette belle chanson « My Lady Heroine ». Au paradis, donc, on était aujourd'hui, grâce à vous, Jacques Darulla, et à Baudelaire et son texte, Les paradis artificiels. Merci d'être venu nous voir. On se retrouve demain pour continuer cette conversation sur et autour de Baudelaire. On parlera de la foule demain, et encore de la vie quotidienne, et encore du spleen et de l'idéal, et peut-être même encore du paradis. Je renvoie l'auditeur à deux textes dont on a parlé aujourd'hui, le traité du réel de Clément Rosset, où il parle de « Au-dessous du volcan » de Malcolm Lowry, juste avant cet éloge de l'ivrognerie. Il n'y a pas de hasard. Je le renvoie également au paragraphe 42 de la critique de la faculté de juger, où il est question du fameux rossignol qui chante mieux que toute diva. C'était les nouveaux chemins de la connaissance, à la réalisation Mehdi Eladj, à la technique Olivier Dupré, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer, France Culture, il est 20h. Tout de suite, on retrouve Avoinu sur France Culture.